Vous êtes à l'écoute de Paroles de vie, soyez les bienvenus. L'espérance de vie se rallonge et la probabilité pour les enfants devenus adultes de s'occuper de leurs parents également. Par exemple, Cécile, qui s'épanche sur un forum médical d'Internet.
Après avoir changé de médecin, mon petit-père a aussi changé de vie. Nouvelle relation, nouveau traitement, nouveau petit-père. L'amélioration est étonnante, je vous passe les détails qui ne regardent que nous. Mais j'ai été surprise de ma réaction face à cette amélioration soudaine. Je m'étais préparée à tout, sauf à ça. J'avais un grand malade à la maison et je me retrouve avec une personne valide. Eh ben, ça encombre, et oui. Ça va vous choquer que je dise ça, mais l'habitude de manger seule, d'être seule dans toutes les pièces de la maison, de le savoir au lit à tout moment, il faut que je largue pas mal de réflexes et c'est loin d'être simple. Rien que le regard qui doit redevenir un regard apaisé et non pas le regard inquiet qui scrute les symptômes, c'est terrible. Je ne peux plus me servir de lui comme prétexte pour ne pas m'occuper de moi. Je suis obligée de travailler à mon bonheur. Eh bien, c'est très dur. J'ai l'appréhension des débutants. Bon, comme d'hab, je culpabilise d'étaler ma vie, mais j'en parle des fois que quelqu'un d'autre s'y retrouve. Cécile.
Mais non, Cécile, vous avez raison. Communiquer ses expériences de vie, partager ses réflexions, c'est jouer la solidarité les uns avec les autres. Et ainsi en est-il de Nicole Carré, que nous retrouvons aujourd'hui pour une sixième et dernière intervention de sa part au micro de Farid Sergi. Atteinte de leucémie, plusieurs fois mourante, elle nous dit son expérience de malade, de croyante, et se dégage une force de vie que l'on envie. Nous l'écoutons tout d'abord évoquer la prière.
Vous dites que vous supportez encore mal qu'on vous dise que vous avez été guérie parce qu'on a beaucoup prié pour vous.
Quelle horreur!
C'est pas gentil, ça.
J'ai horreur de ça, horreur. Je suis plus ou moins violente avec des réactions pareilles.
Pourquoi? Parce que vous parliez justement précédemment des liens qu'il y avait entre l'entourage et le malade, etc. C'est des preuves d'amour, donc on est prié pour
vous. Ah oui, bien sûr. Mais pour moi, ce que ça remet en question, alors je le dis ou non, selon les personnes auxquelles j'ai affaire, c'est Dieu ne s'achète pas. C'est l'image de Dieu que je remets en question derrière ça. Qu'on m'aime, oui, qu'on prie pour moi en demandant à Dieu qu'il me donne la force de vivre et qu'il donne à ceux qui m'accompagnent d'avoir la force de m'accompagner. Mais non pas qu'ils prient en restant à l'extérieur, eux les riches, pour prier pour moi. Ou alors qu'ils disent « si je prie bien, donc si j'ai payé beaucoup d'argent à Dieu, eh bien il va m'exaucer ». Et Françoise Dolto raconte qu'elle a failli en être folle avant sa première communion. Sa mère lui avait dit « si tu pries bien, ta sœur va être guérie ». Et sa sœur est morte. Et on lui a dit « tu as mal prié ».
C'est une perversion du sens de la prière, en fait,
c'est une
de la relation à Dieu.
Oui, oui. Ce n'est pas, je veux dire, Dieu, il faudrait, c'est tout le problème du mal aussi qu'il y a derrière ça. Mais c'est, relisons tout l'évangile de Matthieu, ce qui est dénoncé dans cet évangile qu'autrefois je n'aimais pas et que maintenant j'aime beaucoup, c'est Jésus dénonce la comptabilité. Dieu n'est pas un comptable. Dieu donne gratuitement. Il donne la vie gratuitement avec tous les aléas. Quand des parents font des enfants par amour, eh bien, ils donnent la vie en sachant que l'enfant va se casser la figure. Mais si on dit à un enfant, j'ai peur que tu te casses la figure, donc je suis toujours sur ton dos, l'enfant, il détestera ses parents. Eh bien, pour moi, c'est ça, Dieu, c'est cette relation-là, le prier, oui, mais pas avec une relation marchande. Parce qu'alors, si je meurs, est-ce qu'ils ont mal prié? Et en même temps, alors j'ai quand même envie de rajouter, on peut dire à Dieu, c'est une forme de prière, mais qui n'est pas tout à fait la même, c'est parce que Dieu est le plus intime à moi-même que moi-même, c'est lui dire, j'ai envie qu'il guérisse, j'ai envie qu'il guérisse. C'est-à-dire, je ne le prends pas pour un marchand, mais je lui donne toute ma confiance.
Et je lui dis ce que moi je ressens, enfin, mon souhait
oui,
à moi.
Oui, ça peut rejoindre aussi la prière de Jésus, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est pas que Dieu veut la souffrance, il laisse faire les lois humaines.
Il y a une citation de Eti Ilezum que vous mentionnez, qui écrit ceci: « Il m'arrive de me demander ce que tu veux faire de moi, mon Dieu, mais peut-être cela dépendra-t-il justement de ce que je veux faire de toi. »
J'aime beaucoup cette citation.
Il faut déjà se poser la question de Dieu dans son existence.
Toute mon enfance, on m'a appris à chercher la volonté de Dieu. Et je me rends compte que nous avons souvent comme image de Dieu celle d'un potentat ou d'un père très autoritaire. Et si j'aime bien mon papa, eh bien je serai obéissant ou obéissante. Et je comprends que beaucoup de gens ne veuillent pas d'un tel Dieu parce que c'est les déposséder de leur liberté, de leur personnalité. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu, mais si je découvre, car pour moi c'est le seul nom de Dieu, que Dieu est amour, eh bien s'il est amour, il est pauvre. Comme tous les pauvres, quand j'aime quelqu'un, je dépends de lui. Que va-t-il faire de mon amour? Est-ce qu'il va l'accepter ou non? Que va-t-il faire? Et je ne peux plus rien faire. Je crois que nous sommes dans la même position avec Dieu. Et quand on dit Dieu le Père Tout-Puissant, c'est nous, les créatures toutes-puissantes. Dieu n'est tout-puissant que d'amour.
Mais là, avec cette citation, vous nous renvoyez à notre responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire de Dieu?
Oui, qu'est-ce que je vais faire du nom de Dieu? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire du nom de Dieu? C'était Martin Buber qui disait « Dieu, le mot le plus trahi ».
Préparer sa mort, Nicole Carré, cette peur de la mort, est-ce que vous l'avez éprouvée aussi vous-même?
Oui, bien sûr. Je me rends compte après cette traversée de la maladie, et puis je ne sais pas comment je mourrai, et elle m'habite encore un peu à certains moments. Je me rends compte que c'est quand je ne vis pas que j'ai peur, le plus peur de la mort. C'est-à-dire qu'on dit, et je l'ai entendu dire souvent, mais j'ai encore des choses à faire. Je veux encore un moment pour ranger ma vie, je suis trop jeune, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mon travail. Nous sommes dans l'accumulation. Et est-ce que nous vivons? Si je vis, il n'y a pas de différence entre vivre et accepter de mourir. Parce que on se dit que mourir, c'est tout va s'arrêter. Et si j'ai soif de vivre sans arrêt jusqu'à mourir vivante, alors à ce moment-là, j'ai envie de dire l'après-mort, pour ceux que les questions métaphysiques préoccupent, n'a absolument aucune importance. Il s'agit, comme dit Zindel, de savoir si nous allons vivre avant la mort plutôt que de savoir si nous allons être vivants après la mort. Et bien souvent, nous sommes pas des morts vivants, mais nous vivons à petit feu.
Nous vivotons.
Et nous voyons que chez la plupart des gens qui ont un diagnostic grave, ils se mettent à avoir envie de vivre. Alors pourquoi être au bord de la mort pour avoir envie de vivre? Si nous avons vraiment vécu avant, eh bien notre vie est pleine. Elle est accomplie quelle que soit l'heure de la mort. Et c'est ce qu'on entend dire quelquefois dans les services d'enfants, dans les hôpitaux, alors qu'ils sont tout jeunes. Ils ont aussi le sens de la mort et ils savent qu'ils vont mourir. Quand ils sont très malades, et bien quand ils sentent leur accomplissement intérieur, ils sont prêts, ils ne demandent rien d'autre.
J'accepte de mourir. Quand je dis cela, je ne sais pas trop ce que je dis. Accepter de mourir signifie que je dis oui à la peur de souffrir. Je dis oui au manque de courage. Je ne compte pas sur moi. Je sais que je ne suis pas forte. J'ai fait l'expérience en moi d'une autre force. C'est en elle que j'espère. Je l'invoque, Je lui parle au long des jours. Je lui dis ma faiblesse, mon peu de foi. Je lui dis aussi ma certitude qu'elle ne m'abandonnera pas. Je compte de moins en moins sur ma volonté. J'en ai éprouvé la limite et la vanité. Comment trouver le repos dans la peur ? Comment trouver le repos quand on est seul, parce qu'on se sent mal compris, incompris ou tout simplement parce que chacun d'entre nous doit assumer sa vie et que personne ne peut le faire à sa place ? À ma première leucémie, en 1992-93, une amie me fit de grands discours sur Dieu. Épuisée, je n'y comprenais rien et lui demandais de me laisser tranquille. Je continuais la seule prière dont j'étais capable, rester devant Dieu dans mon lit sans bouger, sans penser, en me présentant à lui tel que j'étais, en lui exprimant mon désir avec ou sans parole. À ce moment-là, je n'avais qu'une prière. Guéris mon corps, guéris mon âme. Dans cette prière, Dieu me donnait son pain pour chaque jour. Quelques semaines plus tard, en hôpital maison de repos, je rencontrais quelqu'un qui, jour après jour, m'invitait à me réjouir de souffrir pour le salut du monde. Je ne pouvais partager ses discours sur le Dieu qui prend plaisir à la souffrance. Elle m'accusait avec véhémence de me refuser à Dieu. J'étais ébranlée par ses assauts à répétition. Je ne savais que penser de son prosélytisme pour convertir les plus malades d'entre nous. À certains moments, je me disais que j'avais peut-être tort de ne pas davantage parler de Dieu. Seule, dans ma chambre, je pleurais. Impuissante, je suppliais Dieu de venir à mon aide, de m'éclairer, de me convertir, de m'aider à aider ceux et celles qui venaient à moi. Je comprends maintenant que dans cette épreuve où j'étais vulnérable, impuissante, Dieu m'a sortie du trouble dans lequel j'étais en simplifiant mon cœur et en l'unissant à lui. Seul le cœur simplifié permet de tenir dans l'épreuve. Je trouvais mon repos dans le Seigneur et non pas dans l'intégrité de mes voies. Sa grâce était mon repos. Il me tenait dans le creux de sa main, il m'abritait dans le danger. Je cherchais réponse à mes questions, mais je le trouvais, lui.
I lose myself in this place. A stranger smile on my face. The hand of blessing or beginner's love. Here I stand on the rock of your love. Something steady sure feels good. I always knew somehow it would. I've traded chains for the wings of a dove.
Le titre de l'ouvrage de Nicole Carré, Préparer sa mort, l'entretien que Farid Sergi a réalisé pour Parole de vie et qui a pour titre Mieux préparer sa vie. Si cette émission a suscité des réactions, des envies de témoignages partagés ou des demandes, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous désirez obtenir gratuitement le CD de cette émission, écrivez-nous à Parole de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex. Parole de vie, boîte postale 310, 18007 Bourges-Sedex ou alors sur internet www.parole.ch.